Radio FMR 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Radio FMR, donc, et nous sommes le samedi 2 avril 2005 et nous ouvrons, bien évidemment, comme tous les samedis, avec les magazines, suppléments week-end, BD, cinéma, télévision, puis à 13h, les pages du sport, et à partir de 15h, de la musique avec Zarma Farai, ça c'est du reggae, et Poupa Christopher, coucou! À 17h, Vie d'ordure, 18h30, Clark Nova, de la pop, pour, communiste, pour, les cadres supérieurs, 20h, Last Hetero Experience, ouais, je l'ai dit, ouais! 21h30, de ou Liquid Sky à 23h, Breakbeat Experience. Wouah!
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
C'est complètement déchaîné là aujourd'hui, hein.
Oui, j'ai trouvé une agence de location de journalistes. Supplément week-end. J'adore ce morceau, je suppose que vous savez pas ce que c'est.
Si, Xavier, tu l'as déjà passé ce morceau, c'est AA Can You Relate.
Oh mince.
Mais tu le saurais que tu l'avais déjà passé si tu consultais un peu plus souvent ta propre page de l'émission que tu fais toi-même. On va rappeler le site peut-être.
Oui, théoriquement, il y a un lien direct sur www.radio-fmr.net. Mais pour l'instant, c'est pas trop mis à jour, dommage. Enfin bon, donc AA Can You Relate de Luke, l'anthème mix de Luke Viber du titre de DJ Ming sur la label Warp. Vous pouvez pas connaître, ça date de 92, enfin bon, etc. Patin couffin, voilà, je suis vexé du coup. Et donc si je suis totalement déchaîné et que je dis que j'ai trouvé une agence de location de journalistes, c'est principalement parce que on est au Festival d'Angoulême, on est tombé par hasard sur des gens dont on connaissait, enfin dont je connaissais, hein, je veux dire, dans le milieu underground, qui se sont fait une réputation énorme pour avoir piégé TF1. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. On l'a trouvé dans l'espace Fanzine parce qu'ils ont un bouquin qui s'appelle donc Les Punks, petit précis d'ethnologie urbaine. Ils ont fait la même chose d'ailleurs aussi avec les gothiques. Il s'agit de The Crowbar et ça, on verra tout à l'heure. En attendant, hop, je suis en train de chercher le dernier album de Amon Tobin qui s'appelle Chaosery et qui est la bande son du jeu qui vient de Splinter Cell, la nouvelle version qui vient de sortir. C'est pour parler du film
Infernal Affairs,
voilà,
qui vient de sortir en DVD il y a 10 jours à peu près. Donc Infernal Affairs, c'est un film de Hong Kong qui a été réalisé par Andrew Lau. Donc Andrew Lau, c'était le chef-op des premiers Wong Kar-wai. Il a travaillé également sur la saga Young and Dangerous. Et il a surtout fait un petit film d'heroic fantasy à base d'effets numériques et de Kamehameha. Mais bon, ça c'était transposé dans l'époque.
Excusez-moi, ça m'a échappé.
Voilà, qui s'appelait Storm Riders. Voilà, ça te dit peut-être quelque chose, Xavier, non?
Non, absolument.
Bon, c'est pas grave. Et donc, ce film a été co-réalisé par Andrew Lau et Alan Mack. L'interprétation Andy Lau, qui est relativement assez méconnu chez nous, mais qui est une énorme star en Asie, puisqu'il est aussi chanteur et je crois qu'il est même un artiste martial assez confirmé. Tony Leung Chiu-wai, à ne pas confondre justement avec le Tony Leung de l'amant, et Tony Leung Chiu-wai, c'est celui qui était primé pour In the Mood for Love. Eric Tsang.
Moins vite. Ça va, on a le temps, on va déborder comme d'hab.
Ouais, mais bon, après du sport, il va encore aller. Et surtout l'immense Anthony Wong. Anthony Wong, c'était le preneur d'otages de l'hôpital dans À toute épreuve.
Je te sors ça avec un M16 d'une main et un gamin de l'autre. Allez, hop, facile.
Voilà. Et Anthony Wong, c'est marrant parce que maintenant il est condamné à jouer les patrons soit d'un corps de garde du corps, soit d'un corps de policier, puisque on a pu le voir dans ce type de rôle justement dans Time and Tide, dans The Mission et maintenant dans Infernal Affairs. Donc ce film était sorti à Hong Kong en 2002, donc depuis il y a eu deux suites, la trilogie Infernal Affairs. Il avait fait la clôture du festival de Deauville en 2003.
Ah bon, je croyais que Deauville c'était le film américain.
Ah oui, mais il y a deux festivals, il y a le festival du film américain, il y a le festival du film asiatique, où on peut voir des productions coréennes, hongkongaises, japonaises, etc.
Ah, ça c'est intéressant à savoir.
Voilà, il est sorti en France donc à la fin de l'année dernière, fin 2004. J'avais voulu le chroniquer mais j'avais pas pu aller voir le film quand il était sorti en salle. Et le DVD donc est sorti depuis une dizaine de jours. Le petit synopsis, le voilà. Ming, qui est incarné donc par Andy Lau, est un gang infiltré chez les flics. À l'inverse, Yan, interprété par Tony Leung, est un flic infiltré dans la triade depuis sa sortie de l'école de police. Sauf que ça se complique parce que chaque camp, c'est-à-dire la police et la triade, est persuadé de l'existence d'une taupe qui le torpille de l'intérieur et va charger ces deux protagonistes qu'ils prennent pour l'un des leurs, donc de démasquer cette taupe. Donc ça veut dire qu'ils vont enquêter sur eux-mêmes. Sans compter que leur propre camp, c'est-à-dire les flics pour celui qui est infiltré chez la mafia et vice-versa, les charge également de trouver la taupe du camp d'en face. C'est-à-dire qu'ils vont se chercher eux-mêmes et chercher leur alter ego dans l'autre camp. Oula, ça devient compliqué.
Oui, je dois avouer quand même qu'au début du film, j'étais un petit peu paumé, là.
Oui, bon, après, voilà, tu vas pas faire comme Thierry Roland, on a du mal à différencier quand même.
Ah ben, ces petits chinois, là, on les reconnaît pas tous.
Oulala. Donc, tout ce qu'on peut dire sur le film, sans trop vous dévoiler l'intrigue, parce que c'est quand même un film qui fonctionne surtout sur son scénario assez rotor. On accompagne ces personnages dans leur périple au bout de la schizophrénie. Hein. C'est un peu le pitch un peu du bouquin de Philip K. Dick, Substance Mort, quand il y avait le flic qui était infiltré parmi les dealers et qui devait
enquêter
sur lui-même, puisqu'il était il était incognito, même par ses employeurs qui ne savaient pas qui il était exactement. Et donc là, on peut voir dans ce film une mutation assez évidente dans le cinéma de Hong Kong. C'est une volonté de la part de l'industrie locale de rompre avec les codes qui ont fait sa renommée. C'est-à-dire, quand il s'agissait de polar, c'est miser sur les effets gore qu'on n'avait jamais vu ailleurs. La priorité aux scènes d'action par rapport au scénario et les personnages. On peut pas dire qu'ils étaient inconsistants, mais qu'ils étaient interchangeables d'un film à l'autre.
D'ailleurs, ça arrivait régulièrement que pendant le film, le personnage, hop, il était exclu, un truc à la con, accident bête, un mariage, une mort,
oui.
N'importe quoi. Ça arrive souvent dans le cinéma hongkongais. Et c'est vrai que les films d'action en général, c'est soit des gros gunfight à John Woo, soit des scènes de kung-fu absolument délirantes dans les rues.
Et puis vu que les acteurs interprétaient exactement le même type de rôle d'un film à l'autre, c'était assez courant de les voir tourner 16 films par an, quand même.
c'est une moyenne, hein.
Voilà. On voit une mutation du cinéma d'Hong Kong arriver vers des plans un peu plus occidentalisés, c'est-à-dire des surcadrages, un scénario beaucoup plus poussé, une étude un peu plus poussée également sur les personnages, et surtout une élégance dans la présentation des personnages, dans la présentation des décors, etc.,
Vas-y, continue.
Tu fais des signes bizarres.
Parle dans le micro, c'est assez désagréable.
Ouais. Et on voit une volonté de la part des metteurs en scène locaux de miser sur l'exportation de leur cinéma. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que Hollywood avait débauché tous leurs principaux réalisateurs, ceux qui appartenaient à la deuxième nouvelle vague, on va dire, la vague des années 70-80,
L'âge d'argent,
Laurent Albé.
Dans son bouquin Ciné Hong Kong.
Voilà. Et en fait, on voit bien que là, en ce moment, ils ont une attitude plutôt tendue vers la potentialité de remake de la part des Occidentaux. Puisqu'on y reviendra tout à l'heure, il y a Infernal Affairs qui va bientôt faire l'objet de remake, on en parlera en fin de chronique. Une volonté également de miser sur des acteurs multiprimés et super confirmés. C'est-à-dire, c'était le même syndrome dans The Mission dont on parlait tout à l'heure avec l'utilisation d'Anthony Wong, etc. Avec Tony Leung qui s'est fait une solide réputation en Occident suite à son prix obtenu à Cannes, etc. Donc ça, c'est assez évident. Et, c'est assez confirmé dans les bonus du DVD. Parce que là, les interviews, alors d'un côté, on a le making of promo, c'est-à-dire complètement inintéressant. Oui, c'était génial de travailler.
Voilà, en général, ce que les journalistes appellent avec le petit doigt en l'air, le PK, l'Electronic Press Kit. tu charges la bêta, hop, dans le scope de diff et tu peux appuyer sur play, c'est gratuit. Allons-y.
Voilà. Donc la partie la plus intéressante du DVD, ce sont les interviews. Déjà, on apprend beaucoup de choses en écoutant les deux auteurs, Alan Mack et Andy Lau. Alors on apprend dans leur interview, je vais pas tout vous dévoiler, tous les bonus du DVD, mais on voit bien que s'il y a une co-réalisation, c'est pas parce qu'ils ont dit ah tiens, ce serait sympa qu'on travaille ensemble, que nenni. Alan Mack, il avait développé d'abord le scénario tout seul avec la ferme volonté de le produire, de le réaliser, mais il s'est aperçu, je suis pas assez connu auprès des producteurs, il faudra.
C'est l'accident bête, oui. Là.
Il me faudrait quelqu'un de plus connu et puis qui fasse des films un peu plus commerciaux. Donc Andrew Lau, surtout après Storm Riders et après avoir fait un autre film qui s'appelle A Man Called Hero, il est allé voir ce mec-là et l'autre, il a dit, bon d'accord, toi tu t'es occupé de toute la pré-production du film, la gestation du scénario, etc. Tu as passé 3 ans dessus, maintenant tu me laisses la main et je vais un petit peu démarcher les producteurs. Voilà, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est assez marrant.
En général, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en général, un film à Hong Kong se fait d'une manière très simple. Ça commence par un dîner entre un producteur et un réalisateur. Mmh. Et deux, trois mots griffonnés sur un coin de nappe en papier. Et le coin de nappe en papier tient lieu à la fois de pitch, de scénario et de contrat. Et là, c'est une mode assez différente de production.
Tu veux tourner avec un tel ? Bon, d'accord, tu démarres lundi.
Bon, d'accord, ok.
D'ailleurs, c'est assez troublant et même à la limite du choquant quand même, parce que Andrew Lau n'hésite pas à parler du terme « ancienne recette » pour qualifier un peu la production, on va dire, pré-rétrocession, on va dire, puisqu'il y a John Woo, Tse Yark, Ringo Lam, et puis Kirk Wong qui sont barrés de Hong Kong, et ça c'était l'ancienne recette qui avait fait justement le succès de l'industrie locale, c'était justement ce qu'on disait tout à l'heure, l'usage de câbles, l'usage de scènes d'action survoltées, préparation minutieuse, etc.
Ou de mélange de genres complets, ça peut tourner à la parodie, ça peut tourner à la SF du tout au tout.
Voilà, tout à fait.
En fonction, en fait, des négociations de budget qui se font pendant le tournage, c'est-à-dire pendant que ça tourne, il y en a un des deux réalisateurs qui fonce et qui va négocier avec un producteur. Ouais, j'aurais besoin un peu d'allonge de monnaie, tu sais, là t'as foutu du fric, il en faut un peu plus là pour terminer. Et des fois, c'est vrai que tout ça a un peu disparu.
Ouais. Également, on parlait tout à l'heure de l'acteur Anthony Wong qui avait joué, qui était devenu un petit peu un acteur culte auprès des fans de À toute épreuve. C'est dommage que du sport ne soit pas déjà arrivé parce que je sais qu'il en est fan aussi. Et ben, oui. Ça va casser un peu le mythe dans les bonus puisqu'il avoue que le seul critère à ce stade de sa carrière qui lui fait choisir ses films, c'est le pognon.
Au moins il est cynique.
Ah ouais, mais il avoue.
Au moins il le reconnaît.
Ah ouais, tout à fait. Mais il dit au moins le pognon, c'est la qualité du film parce que au moins les producteurs sont capables de mettre d'aligner l'argent pour faire venir les stars. Ça veut dire que c'est une production de série A et qui cherche à gagner des prix et que c'est une production de grand standing. Donc moi, c'est mon critère d'aujourd'hui, c'est le pognon. Voilà. Il y a aussi des très bonnes séries B qui sont bien supérieures aux séries A parfois, mais bon, on va pas critiquer ce qu'il a. Voilà, son honnêteté. Et on parlait tout à l'heure de possibilité de remake du film, donc elle est déjà assez avancée puisqu'on commence à voir des rumeurs qui se confirment dans les revues spécialisées cinéma. Donc le remake, qu'est-ce que Xavier, est-ce que tu en as entendu parler?
Vaguement, j'ai cru comprendre que dedans il y aurait John Travolta et non, je déconne. Je sais pas.
Non, mais c'est marrant que tu fasses allusion à John Travolta parce qu'on peut discerner dans
l'affaire. C'est vrai que John Travolta, on le verrait très bien là-dedans. Je sais pas pourquoi.
Surtout qu'on voit quelques réminiscences de Volteface dans ce film.
Oui, tout à fait. Ouais.
Surtout dans certains.
Un film de John Woo, comme par hasard.
Alors, le titre du remake s'appellera The Departed, réalisé par Martin Scorsese, quand même. Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio jouera le rôle du flic infiltré dans la triade, Matt Damon l'inverse, le truand infiltré chez les flics, donc duo Matt Damon Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson interprétera le parrain de la pègre irlandaise et
Il va être bien lui.
Voilà.
Ah oui.
Avec et puis il faut souligner également la possible apparition de Mark Wahlberg qui jouera un flic. Voilà. Donc le DVD vous pouvez vous précipiter dessus. Alors je sais que le jour même de sa sortie, il y avait des t-shirts qui étaient gratos. Ça, là, c'est trop tard maintenant. c'est bien dommage. Donc, Infernal Affairs, personnellement, moi, je trouve qu'il a été beaucoup surévalué dans les articles. Et ils essaient d'en faire un espèce de film culte en ce moment. Mais bon, c'est un peu râpé parce que moi, personnellement, j'ai été plutôt déçu par la manière dont il avait été réalisé. Moi, je suis un peu nostalgique de l'époque.
Ce qui est surprenant pour un polar comme ça, aussi noir, c'est que énormément de scènes se déroulent en plein jour sous un soleil de plomb. Ouais. Il y a vraiment une espèce de travail à contrepoint. Et puis, par contre, gros problème, c'est vrai qu'au début, on est un peu paumé par l'intrigue et ça mériterait d'être vu deux fois justement pour bien tout comprendre.
Oui, mais ça, c'est pas leur coup d'essai parce qu'ils sont assez coutumiers du fait de brouiller un peu les cartes au début et puis après l'histoire ensuite se simplifie énormément puisque les scènes d'action arrivent. Sauf que là, dans ce film, les scènes d'action n'arrivent pas.
Et voilà.
Et les scènes d'action sont vachement épurées quand elles arrivent. Alors c'est vraiment, c'est un film absolument, on va dire, qui tranche un peu avec ce qu'on connaît du film de Hong Kong, les polars ultra gore, etc. Alors moi, personnellement, je suis un peu nostalgique de cette époque-là, mais bon, on a le droit d'apprécier parce que c'est un film quand même vachement occidentalisé quand même. Mais bon. Bon, c'est quand même une série A de très grand standing. Juste pour terminer, on parlait de la trilogie tout à l'heure. Sachez que le numéro 2 est la préquelle. Ça se passe avant le premier film et le numéro 3 est la suite.
Un peu comme Ring.
Voilà, exactement.
Ouais, Ring. J'ai la trilogie en DVD d'ailleurs.
Sauf que Ring, le 2 était la suite et le 3 était la préquelle. Là, c'était
voilà. Voilà, à peu près. Et puis, à ce qui paraît, là, il y a Ring 2 qui vient de sortir. Encore un tâcheron américain, à mon avis, qui fait ça. Ouais.
mauvaise pioche.
Pourquoi?
Et parce que c'est Hideo Nakata, le réalisateur des films d'origine japonais, qui va faire le remake lui-même du 2.
Voilà. Il est arrivé à se faire comprendre des gaijins. Oh, d'accord, ok. Bon, on va parler dans ce cas-là de prostitution juste après avec notre grande interview. Vous écoutez Radio FMR, il est 12h19, c'est Supplément Week-end.
La voix des filles chuchote, chaque jour à l'intérieur. sucette à la menthe. Tu peux partir, tu peux rester. C'est une question de monnaie.
C'est une fille farouche qui joue avec sa bouche. Son corps est nul, il s'agit de violence.
Je ne peux pas te voir la glace. Nous sépare, tu es en face d'un
On va donc passer l'interview des The Crowbar que l'on a rencontré par hasard à Angoulême. Il faut dire un peu que c'était, on s'est dit on va le passer pour le 1er avril. Et en fait, hasard énorme, et ben avant-hier c'était l'arrivée de la TNT. Vous savez, la télévision numérique hertzienne avec des nouvelles chaînes. On espère que nous aurons plus de diversité, plus de programmes intéressants et largement moins de production en démol par heure d'antenne diffusée. Ouais, ben, je l'espère en tout cas. C'est l'histoire d'un canular arrivé par deux fois consécutive à deux filiales différentes du groupe Endemol, le plus gros producteur de programmes de flux en Europe. Pratiquement toutes les télé-réalités, une bonne partie des divertissements, le vrai journal de Carl Zero, ouais, tout ça, c'est Endemol. Le problème, c'est que le boulot de cette boîte se borne en fait à garder l'attention du public entre deux écrans publicitaires, le moins cher possible, le plus spectaculairement possible, quitte à salarier des journalistes pour à qui on donne les ordres pour en leur disant allez va au plus vite, va au plus pressé, oublie la plus élémentaire des prudences, on s'en fout, c'est le spectacle, c'est le sensationnel. Dommage. The Crowbar, eh ben ils les ont eus deux fois. La première fut diffusée sur TF1 deux jours après que Patrick Lelay a expliqué que son métier consiste à vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. On peut lui reprocher d'être cynique, mais il est parfaitement réaliste, Lelay. Vous savez qui c'est ? C'est le patron de la chaîne qui a la plus forte audience nationale en Europe. Le boss d'une télévision qui fut privatisée pour le mieux-disant culturel. Dixit Lothar, ministre de la Culture à l'époque. Où on pourra voir en direct les opéras du festival de Bayreuth chaque année. Ça, c'était Bernard Tapie qui l'avait sorti. Bon, allez, j'arrête. J'ai du mal à ne pas éclater de rire. Le début, c'est ce mail qui leur est arrivé. Émission TF1, important. Bonjour, je m'appelle Denis Vincenti. Je suis journaliste pour l'émission Incroyable mais Vrai sur TF1 avec Sophie Favier, entre autres. Nous préparons actuellement les sujets des prochaines émissions et j'aimerais rentrer en contact avec votre organisation de Destroy Escort pour avoir des informations sur cette activité incroyable mais vraie. C'est une proposition très sérieuse puisque nous serions amenés à faire un sujet sur vos services qui semblent être très originaux. En espérant avoir une réponse de votre part, je vous remercie d'avance. Artistiquement, R&G Productions.
Artistiquement.
Oui, oui, artistiquement, oui. Ça, c'est un peu la surprise. Enfin, bon. Eh ben, du coup, on va passer cette interview.
Oui, ça va.
Alors,
hop, putain, excusez-moi. Hop, feu départ. On est en direct, on est en public. Pas du tout. Mais voilà, bon, je vous la passe. Allez, hop, zou.
Bonjour, les crowbars, ça va ?
Oui, ça va.
Alors, d'abord, je voudrais savoir, c'est quoi cette histoire de punk à TF1 ? J'ai rien compris.
On a ouvert en 2002-2003 une rubrique, on a un site internet qui parle d'ethnologie urbaine par l'humour, la BD et tout ça, et on raconte, enfin, même si c'est vrai, le fond est vrai, on traite ça sous forme d'humour. Et dans toutes les conneries qu'on avait fait, on avait trouvé rigolo de faire une page Louton Punk, Louton Goth, Louton Tuffer. Mais c'est un gag, comme tu as vu la page, c'est un gag, c'est que des dessins. Quand tu commences à aller sur le site, à lire, tu te rends compte que dans la charte, il y a quand même des tests de vétérinaires sur les goths et les teufs. Enfin, tu vois, et tu commences à fouiller sur le punk, il y a une option se fixe en public. Pour les teufeurs, il y a une option deal des extas à vos invités. Le goth, il y a une option sacrifice de vierge, avec vierge à vos frais. Enfin, tu vois, quand tu commences à fouiller, c'est énorme, ça se voit que c'est un gag. Et il se trouve que courant...
Début 2003, on a reçu un mail d'une boîte de prod qui nous disait en substance, voilà, nous faisons l'émission Incroyable mais Vrai, on trouve votre société Incroyable mais Vrai, on voudrait faire un reportage dessus. Alors, la première action, ça a quand même été l'hallucination. Le mail, on l'a gardé 2 heures, affiché l'écran,
et on passait.
Puis on se rassoyait, on le relisait, on disait non, c'est vrai, ils nous ont vraiment envoyé ça, bah, c'est pas possible.
Et puis, on a cru que c'était un hoax, nous, on a rentré le nom du journaliste dans le...
Un hoax, ce qui veut dire en fait c'est que c'est une blague.
Un canular, on n'a pas pensé que ça pouvait être vrai, quelqu'un était assez...
On s'est dit non, ils nous ont vraiment envoyé ça. Alors on a appelé 2-3 personnes, et que, par exemple l'éditeur qui publie nos bouquins, on lui a dit ben voilà, on a reçu ça, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et tout le monde... Enfin, tout le monde a dit, mais allez-y, foncez, quoi. Alors,
On l'a rappelé 3-4 heures. Parce qu'en plus, il y a un délai pour être crédible. Si on avait vraiment une société, on pouvait pas prendre 3 plombes pour réfléchir et tout ça. Donc, on l'a rappelé dans un délai de 3-4 heures après son mail, en restant super flou, parce qu'on voulait voir ce que le mec voulait. Puis, quand on a eu raccroché, c'était évident que le mec, il marchait dans l'affaire, qu'on allait pouvoir lui faire avaler n'importe quoi. Il n'y avait qu'à se monter une fausse société de location de punk avec du faux personnel, des fausses histoires, des faux tarifs. Et le mec, il allait faire un sujet là-dessus, ce qui s'est vraiment passé.
Et donc, en fait, après, on leur a vendu un scénario comme quoi il y avait un artiste de renommée internationale qui faisait un vernissage à Paris.
Sur la nativité.
Sur la nativité, qui s'appelait Kurtega. Ils n'ont même pas percuté Kurtega, c'est un anagramme de trucage. On a passé des coups de fil.
Donc le mec il voulait un happening parce que la nativité, les punks, nos futurs, il trouvait que ça allait faire un truc génial. Donc il nous avait loué soi-disant des punks pour animer son vernissage. Et ils sont venus filmer ça et le vernissage était bidon. Le public c'était que des gens connus dans les scènes alternatives. À l'inverse, les deux punks c'était des comédiens, des jeunes comédiens de théâtre de rue que personne connaît. L'étoile, c'est nos enfants.
C'est nos enfants qui ont peint l'étoile.
6 et 8 ans qu'on peint l'étoile. On leur avait dit de faire des ronds sur la nativité et tout ça.
On leur avait donné des grands draps comme ça avec de la peinture. On leur avait dit allez-y, les enfants, faites des ronds. Alors ils ont fait des ronds et c'est ça qui était accroché. Quand tu regardes les images, c'est ça que les deux sont venus filmer. Quoi. Et donc on avait donné rendez-vous aux gens à leur dite dans la salle et ça a été un monument, ça a été parce que ça s'est parti en live de tous les côtés. Les deux comédiens qui jouaient donc les deux faux punks, on leur avait bourré les poches d'autocollants de la Fédération Anarchiste, du Scalp, etc. Et les mecs, ils s'étaient fait un concours entre eux avec un système de points en fonction d'où ils arrivaient à en coller des autocollants sur les journalistes.
Et là, la caméra 50 points, le visage 100 points.
Et évidemment, nous on a aussi tout filmé en caméra cachée et le monument c'est quand même ce plan où il y a Denis Vincenti qui se trouve avec un autocollant ni Dieu ni maître collé sur le front. Et il y a Vincenti comme ça. Et en plus, ce qu'on a compris après, c'est qu'ils étaient terrorisés par les deux faux punks. Ils étaient terrorisés. Et il y a Vincenti avec sa caméra qui est là, qui a son autocollant sur le front et qui ose même pas l'enlever, qui reste là tout bloqué. Et d'ailleurs, à la fin, il y a eu un moment de flottement parce qu'on a cru qu'on était découvert parce que tout d'un coup, on était là et genre on tourne la tête. De journaliste, c'était plus là.
On avait vu avec les faux punks qu'il fallait aller jusqu'à un certain point que eux ne montreraient pas à la télé mais qu'ils avaient besoin pour être à fond dans le kiff. Donc on avait dit, il faut ou nous montrer un cul ou pisser contre le bar. Il faut un truc super fort quoi. Et les deux comédiens avaient dit, bon, on verra comment on sent, comment ça va se partir. Et à un moment, ils étaient bien chauds et tout. Il disait, il commençait à se déculoter, à montrer son cul, puis parti dans le truc, il a pissé sur le comptoir. Et à ce moment-là, ils se sont sauvés. En fait, les mecs se sont dit, ça va trop loin, quoi. Et ils se sont dépassés.
Et oui, nous, sur le coup, on s'est dit, ça y est, c'est bon, ils nous ont découvert, ils ont repéré qu'il y avait...
Ils n'ont pas demandé les autorisations de diffusion, tellement ils se sont sauvés vite, si tu veux. Donc nous, on s'est dit, c'est cramé, ils sont partis sans les autorisations de diff, ils ont vu que c'était un pipeau. Et le lendemain, au téléphone, c'est là que le mec nous dit, non, mais on est partis sans les autorisations de diff, mais il nous les faut, faut que vous nous les rameniez et tout. Et qu'on a vu qu'ils avaient avalé la bouche grande ouverte, quoi.
Et donc après, il y a eu l'interview qu'on a fait dans leurs locaux. Alors c'est super drôle, il y a un petit détail, une petite anecdote qui est super drôle. Quand la partie interview du sujet qui a été diffusée, on l'a fait dans leurs locaux, donc on avait rendez-vous. Et nous, c'était l'époque où on venait de sortir notre premier bouquin, Les Goths, chez Kainit. Et en fait, on était en pleine promo du premier bouquin. Et dans le premier bouquin, t'as une pub, t'as une page de la fausse pub. Et on arrive dans les locaux de la boîte de prod, machin, on attend. Et machinalement, je regarde à droite et il y avait une pile mais de 20 cm de métro, le gratuit du métro. Il y avait une page entière sur notre bouquin, quoi. Et là, t'as le vieux stress. Et moi, j'étais tenté, Moi, j'étais tenté de prendre la pile et d'aller l'acheter dans une bouche d'égout. Et en fait, ils ont rien capté, quoi. Ils ont rien vu, quoi.
Ils ont fait l'interview. On est passé en plateau avec le sujet présenté par Sophie Favier, tout ça, machin. On a attendu 2 mois le temps que le machin soit balancé. Avec, il y avait une 50aine de personnes dans la confidence pour avoir fait du monde au vernis. Tous sur Paris, personne n'a rien dit. Les gens, ils finissaient par oublier qu'ils avaient fait ce truc-là tellement on leur avait dit secret. Et puis c'est passé le 12 juillet.
12 juillet, avant.
L'émission a été enregistrée en février, c'est ça ?
Ouais. En février, ça a été diffusé en juillet. Et ça a été une semaine de folie furieuse. Le lendemain,
dès qu'ils ont commencé le sujet, nous, on avait des potes qui bossent dans les chaînes de télé et tout ça. Ils nous avaient dit, quand le reportage il est en route, c'est trop tard. Donc dès qu'on a commencé à voir notre gueule dans la télé, nous on était sur internet. C'est des grosses conneries, c'est des grosses conneries.
En fait, on avait préparé un communiqué de presse qu'on a, voilà, on a spammé partout.
Jusqu'à 4h du matin.
On avait monté toute une partie internet sur notre site où on expliquait avec les caméras cachées qu'on avait fait, etc. On racontait toute l'histoire en fait en détail. On a tout mis en ligne dans la nuit. Et l'histoire s'est continuée jusque le lendemain, parce qu'en fait le lendemain à 9h, il y a Morandini sur Europe 1 qui nous a contacté en disant, voilà, j'ai appris votre histoire, ça me fait hurler de rire. Je vous fais passer en direct avec Vincenti en face de vous. En sachant qu'à ce moment où on a ce coup de fil, Vincenti ne sait toujours pas qui s'est fait enfler. Et donc, on raccroche avec...
Le mec nous demande les coordonnées de Vincenti, voilà, pour les prévenir, les avoir à l'antenne. On raccroche.
Genre 2 minutes, le téléphone ressonne, et là c'était Vincenti.
Bande d'enculés, vous avez foutu 15 personnes au chômage.
Mais en fait, au début, il y croyait même pas. Il était tellement assis sur sa suffisance de télé, genre je peux pas me faire mettre. Et en fait, au début, c'était « Oui, Fab, voilà, c'est Denis Vincenti, on a un petit problème, il y a des gens de chez Morandini qui disent que le sujet était faux. » Et là, on lui dit « Mais ouais, il a raison, tout était faux. » Il fait ça, comment ça, c'était faux ? Il fait «
Les punks, les toiles, les gens, tout
était bidon. » Et là, il commence franchement à partir en live, et il nous fait « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et il fait « Mais parce que vous êtes des guignols, quoi, vous avez fait n'importe quoi, attendez... Et là, bravo, bravo, vous venez de foutre 15 personnes au chômage, bravo. Et nous raccroche au nez, enfin bon, un truc de cauchemar.
On rappelle Morandini en lui disant, non mais le direct avec Vincenti, c'est carrément pas possible, le mec il nous insulte et tout, ça va pas le faire. Le mec de Morandini, non, cool, tout va bien, on sera en direct, il va se calmer, vous dites ce que vous avez à dire, on vous aime, tout le monde vous aime,
Non. Surtout Morandini après ce qu'il a fait à la une.
On raccroche, ouais, non mais c'est ça quoi, on raccroche, et à ce moment-là, Vincenti au téléphone. Non, les gars, génial, vous nous avez mis fort, profond, mais qu'est-ce que c'était bon, vous êtes des dieux et tout. Venez nous raconter ça sur TF1 au mois de septembre.
En fait, ils nous ont carrément proposé de refaire un sujet, genre incroyable mais vrai, ils ont baisé incroyable mais vrai, quoi. Et ça,
on a dit c'est pas possible, quoi.
Et donc, voilà l'histoire du premier qui a duré, parce qu'en plus, on en a refait un deuxième depuis. Avec M6, Affaire de famille, qui a pas été diffusé, mais qui prend des proportions. Là, on est carrément des histoires de procès, de censure à l'échelle de chaîne. Enfin, c'est
hallucinant
aussi, quoi. Et au milieu de tout ça, de temps en temps, on sort des bouquins drôles, d'humour, sympathiques et pas chers.
Alors, à partir de là, est-ce que vous avez pas senti que vous avez complètement remis en cause la crédibilité des journaux, de la presse, au moment où elle en avait justement pas besoin?
Bah, en fait,
quand même, TF1, c'est une grande chaîne.
Au début. Au début, canular, c'est... Au début, le premier canular, c'est Schtroumpf, Pouet Pouet, c'est 20 centièques, ni Dieu ni maître sur la... Enfin, tu vois, c'est rigolo, c'est pas méchant. Et c'est tout ce que ça a entraîné qui fait que ça devient un truc énorme quand on maîtrise pas, entre guillemets, quoi. Parce que derrière TF1, nous, alors que partout sur le site, il y a marqué canular, chaîne de télé, tout... Et qu'on se cache pas sur les raisons qu'on fait, on n'est pas du tout d'accord avec la façon dont ils mènent la télé maintenant, donc on a eu l'occasion de les mettre, on les a mis, tu vois. 6 mois après, il y a une chaîne de télé qui nous recontacte. Alors on est obligé de refaire un canular, c'est marqué partout et la nana, elle l'a pas vu. En plus, elle nous avoue qu'elle a trouvé l'adresse sur le site, là où il y a marqué partout canular et tout ça. On refait un canular. Ils reviennent nous filmer 2 jours à la maison. On leur monte une histoire hallucinante comme quoi j'ai une fille que j'ai eue avec un gendarme qui est mort en défendant un champ d'OGM. Que ma gamine, t'as vu la gueule que j'ai, que ma gamine elle est catholique pratiquante, que chez moi il y a la messe le dimanche matin. Les mecs ils filment, ils avalent la bouche grande ouverte. Le journaliste il rentre à Paris, il monte son reportage. Il va en comité de rédaction avec son reportage monté coupé. Mais dans le magnétoscope, il met play et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui... là, les deux gars là que t'as filmé là, ils ont mis cette TF1 cet été, mais comme ça. La panique dans la boîte de prod. Les merdes, ils nous ont pris en caméra cachée. On s'est conduit comme des porcs. Ils nous envoient 2 recommandés. Ouh là là, vous avez du matériel que vous avez eu de façon illégale, que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Si vous utilisez, nous, procès, diffamation. Et puis nous, on sait, comme on a un site internet, on connaît un peu les histoires de responsabilité éditoriale et tout ça, donc on a rappelé tous nos copains journalistes qu'on a eu du premier canular. Hey les gars, MC, ils veulent nous mettre un procès, les enculés. Et puis du coup ça a continué. Là-dessus, il y a un mec de Canal+ qui nous contacte, qui nous dit ah, votre histoire, vos canulars, machin, la télé, ça remet vachement en cause les choses en cause et tout. Ça m'éclate, je fais un sujet sur vous. Il a pour le grand journal, il a le hoquet de Niso, il a le hoquet de sa rédaction, il a le hoquet de sa boîte de prod, il vient faire le sujet, il monte son sujet, il va en comité de rédaction, il montre le sujet. Son rédacteur chef fait « Oh, c'est génial, on se marre, il nous faut un plus long avec Vincenti qui réagit et tout ça, pas de problème, ils y vont la caméra au bras et tout. Alors, monsieur Vincenti, comment ça va, la vie, la télé, les questions normales ? Et au milieu, ah, dites-moi les 2 crobards qui vous ont mis cet été ? Les 2 enculés qui m'ont mise ! » L'autre part en vrille, le journaliste il prend ça, il monte ça dans son reportage et termine son reportage avec « Faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé ». Donc le truc vraiment commence à être polémique. La rédaction toujours ok, la boîte de prod toujours ok. Ils enregistrent l'émission le jeudi, parce que c'est le grand journal du vendredi qui a enregistré. Donc avec Balladur, Patricia Casse qui ont vu le sujet, eux, le public qui a vu le sujet. L'émission est bouclée, ils amènent ça au service juridique, a priori valide en dernier chez Canal. Et le service juridique, il voit ça et dit « Ah mais non, non, parce que ça, si on le passe, on a un procès au cul, donc vous coupez. » Et ils ont coupé comme des gros trachos. Ce qui fait que l'émission qui reste, tu vois Ahmed Meghini, le journaliste qui est venu faire le sujet, qui est là, qui est présenté comme chroniqueur, qui doit intervenir et faire un sujet, et il fait jamais de sujet. Pour une bonne et simple raison, c'est que ça a été coupé à l'arrache 2 heures avant.
Mais de manière générale, non, je dis que c'est nous, ça nous amuse profondément de foutre un bordel pareil dans...
Censure, ça prouve bien que on a mis le truc sur un truc vachement plus grave. Au début, ils étaient là, ouais, incroyable, mais vrai, Vincenti, c'est du divertissement, c'est pas grave. Et là, maintenant, ils se mettent à tous nous censurer, donc c'est quand même le truc qui... Il doit dénoter d'une certaine logique générale des boîtes de production qui veulent du sensationnel et qui n'en ont rien à foutre de savoir ce qui est derrière ou pas, quoi. On est contre une certaine catégorie de télé poubelle, on va dire, tu vois.
Mais justement, le problème, il est là. Est-ce que par hasard, les boîtes de prod, vu que les chaînes sont obligées maintenant d'avoir minimum 50% de production faite en dehors de leurs propres équipes, est-ce que par hasard, on a trop délégué aux boîtes de prod et qu'elles n'ont justement... Finalement, elles sont totalement déresponsabilisées sur les problèmes juridiques.
C'est facile de se dire ça comme ça, mais pour avoir été pris à partie sur le sujet, on essaye de se renseigner sur les gens à qui on va faire des ennuis. Mais rentre le nom du directeur de RG dans Google et puis tu verras que c'est un grand monsieur de la télévision qui... C'est un des plus grands réalisateurs de la télévision française. C'est quelqu'un qui est payé en milliers d'euros pour l'heure de travail, tu vois. Et qui a sa petite boîte de prod pour faire des petits sous encore en plus à côté. Et les mecs de chez la boîte de prod Biapi, Les mecs de chez Biapi, c'est pareil, c'est un mec qui a eu des... Il a eu un prix, c'est ça aussi.
C'est un grand... Ça a été un grand journaliste, c'est quand même quelqu'un... C'est ça qui est hallucinant.
Les gens ont été des bons journalistes, a priori, à un moment, ils ont été primés, ils ont été reconnus par la profession. Puis je sais pas, ils ont pété les plombs.
C'est des gens, à un moment donné, qui ont manifestement eu une certaine éthique, ont fait vraiment leur travail de journaliste, parce que ça soit Vincenti, personne ne le sait, mais Vincenti, c'est un mec qui a eu le prix Albert Londres en 89. Donc je pense pas qu'on donne le prix Albert Londres à des guignolos, quand même. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa carrière, mais à un moment donné, il a pété les plombs et il s'est mis à faire autre chose que du journalisme. Voilà. Et nous, c'est justement contre cette autre... C'est pas contre les journalistes. Le vrai journalisme, on n'a rien contre. C'est cette autre chose qui nous dégoûte, qui nous amuse, et on s'amuse avec eux, quoi.
C'est le fait que, justement, en tant que journaliste, t'as une responsabilité vis-à-vis des gens qui t'écoutent, entre guillemets, du pouvoir que te donne le média. Et l'aura du journaliste, c'est un petit peu l'aura du docteur, même si c'est pas aussi... Et à partir de là, t'as une responsabilité vis-à-vis des gens. Et ceux qui, comme Vincenti, vont faire de la télé-poubelle comme ça, sans rien vérifier, ils chient sur les gens. Et on n'a pas le droit de faire ça aux gens quand on a un pouvoir pareil. Et ça, là-dessus, on n'est pas d'accord. Et tant qu'on aura l'occasion de mettre les pieds dedans,
on a l'occasion, on continuera.
On peut parler du fameux mot de Patrick Lelay qui est paru 2 jours avant la diffusion, qu'il a lu, relu, dans un magazine spécialisé concerné aux décideurs.
Que TF1 vende l'espace de cerveau disponible à Coca-Cola, mais pour nous c'était du pain béni. La news, elle est sortie le samedi ou le dimanche.
Elle est sortie 2 jours avant la diffusion du canular.
Et nous, on savait qu'on était en train de balancer un canular.
C'est ce que je dis, c'est pas contre les journalistes. Les vrais journalistes, on n'a rien contre. C'est un métier dont il en faut. Mais c'est contre
cette logique de vendre des espaces de cerveau disponibles.
Il faut reconnaître un truc en plus. Bon, hormis tout l'aspect éthique, c'est super drôle à faire, quoi. Qu'est-ce qu'on est quand même. On se fend la gueule, mais c'est génial à faire, quoi. Ça devient une drogue.
Nous deux, tu vois, avec les peu de moyens qu'on a, on arrive et on leur a fait caca partout, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment le côté super du sale punk, du punk à chien, genre on a fait caca partout dans la télé, quoi. Et ça, quand tu...
Non, on a un journaliste télé qui nous a traité de vandale médiatique.
Le mec de M6, quand on s'est pris la tête au téléphone, qu'il a compris qu'il s'était fait mettre, on s'est un petit peu accroché au téléphone, et il m'a un peu pourri et il a conclu en me disant un truc, mais vous n'êtes que des vandales médiatiques. Et en fait, on est vachement fiers. Si pour, dans la bouche de ce mec-là, d'être considéré... Puis même le terme, on aime bien, vandale médiatique, on aime bien.
I fight low and I like it.
Yes.
Eh ben, see you, merci, et ben, joyeuse continuation, je sais pas, peut-être sur au moins sur une chaîne nationale.
On va essayer.
Et ben voilà, donc c'était l'interview de Sand et Fab, qui sont respectivement les scénaristes et dessinateurs donc de cette collection sous le nom collectif de The Crowbar. Le premier tome donc c'était sur les goths, petit précis d'ethnologie urbaine, le deuxième s'appelle les punks, là aussi petit précis d'ethnologie urbaine, où il y a donc la fameuse page qui a piégé TF1, qui est reproduite, juste légèrement remise en page, mais après on s'aperçoit que vraiment ils ont été très cons, et donc c'est aux éditions Kainit, que l'on trouve d'ailleurs entre autres à Librairie BD Ciné et à Terre de Légende, j'ai remarqué, là ils l'ont bien mis en évidence, donc vous pouvez le demander, il n'y a pas de souci. Après, on a eu une précision vis-à-vis donc de la non-diffusion dans le grand journal de ce fameux sujet. KM Prod, qui est donc l'éditeur du grand journal, nous a répondu que nous n'avons pas diffusé cette chronique car l'émission enregistrée était trop longue. Nous avons été obligés de la couper pour laisser les interviews des invités vivre. Rappelons donc que les invités étaient Patricia Cass qui présentait un nouvel album, Édouard Balladur qui voulait évoquer son amitié de 40 ans. Ça en fait des choses à dire. Enfin bon, note artistique, note technique pour l'excuse, 3 points, oui. Note artistique, 5. Ah, joli, joli maximum. Bon bah, jolie pirouette, on va dire. On va remercier Leïla pour les contacts et Bernadette à Angoulême. Et regardez les bouquins, ça vaut le coup. Et le site web du Crowbar, crowbar.propagande.org, dans lequel il y a les vidéos, il y a l'interview qu'ils ont faite chez Morandini, il y a aussi donc la fameuse caméra cachée avec le mec de M6 qui regarde indiscrètement dans les papiers, qui commence à fouiller chez eux pendant qu'ils sont dans une autre pièce et qui au bout d'un moment bah, il se passe le doigt dans le nez, il a mal à grande, enfin bon c'est ignoble. Voilà. Et Morandini. Ouais, pardon, je t'avais pas monté, Edus.
C'est de la télétrage, quoi.
C'est de la télétrage, oui. Mais, mais je suis désolé, quand même. Hein. Denis Vincenti, je crois que c'est... Je confirme, c'est lui qui avait fait en 90 un fameux reportage sur les catacombes de Paris, comme quoi il y avait des sectes satanistes et tout ça. En fait, ça a été tourné dans une carrière avec des acteurs. Hein. Il a une jolie casserole. Moi, je tiens à passer un titre. Alors, du sport, peut-être que tu dois connaître. The Disposable Heroes of Hypocrisy. Allez, quel morceau je vais passer d'après toi?
Television...
Drug of a Nation. Écoutez bien les paroles, et si vous voulez réécouter l'interview et notamment les paroles de cette émission, on les met sur le site de l'émission qui est pas encore lié dans le site de la radio, donc je donne pour l'instant l'URL de la radio, mais ça sert à rien. www.radio-fmr.net.
Yo, et il faut te dire que ça a plus de 10 ans, c'est du hip hop, mais ça a plus de 10 ans.
Ça a plus de 10 ans, ça a pas vieilli, et surtout
ça vieillira jamais.
C'est monstrueux. On a brighter note, commercial break. The government has now banned the carrying of spears. Stop about every 1,000 miles, ain't asking too much, is it? You might wish to stay on and listen. It was a place where everything was legal. I met this woman. So if you're looking for emotional satisfaction, my advice to you is seek professional help. Thank you for joining us live on the air. My pleasure. One Nation under God has turned into one nation under the influence of one drug. Television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links are United States of unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive. The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of them, and still there's nothing worth watching. TV is a reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Socialism means un-American, and apartheid is the new headache remedy. Absorbed in its world, it's so hard to find us. It shapes our minds the most. Maybe the mother of our nation should remind us that we're sitting too close to the television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV is a stomping ground for political candidates, where bears in the woods are chased by Grecian formulated bald eagles. TV is mechanized politics, remote control over the masses, co-sponsored by environmentally safe gases. Watch for the PBS special. It's a perpetuation of the two-party system, where image takes precedence over wisdom, where soundbite politics are served to the fast food culture, where straight teeth in your mouth are more important than the words that come out of it. Race baiting is the way to get selected. Will he Horton or will he not get elected? On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On the screen is an address where you can mail your tithe offering or gift of love. Okay, got the idea? All right, now let's pass it. Is it the reflector or the director? Does it imitate us or do we imitate it? Because a child watches 1,500 murders before he's 12 years old. And then we wonder why we've created a Jason generation that learns to laugh rather than abhor the horde. TV is a place where armchair generals and quarterbacks can experience firsthand the excitement of video warfare as the theme song is sung in the background. Sugar sweet sitcoms that leave us with a bad actor taste, while pop stars metamorphosize into soda pop stars. You saw the video, you heard the soundtrack. Well, now go buy the soft drink
Well, the only COLA that I support would be a union COLA cost of living allowance on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. Back again, new and improved, we return to our irregularly programmed schedule, hidden cleverly between heavy-breasted beer and car commercials. CNN, ESPN, ABC, BCB, TNT, but mostly BS, where oxymoronic language, like virtually spotless, fresh, frozen, light, yet filling, and military intelligence have become standard. TV is a place where phrases are redefined, like recession to necessary downturn, crude oil on a beach to moose, civilian death to collateral damages, and being killed by your own army is now called friendly fire. TV is a place where the pursuit of happiness has become the pursuit of trivia, where toothpaste and cars have become sex objects, where imagination is sucked out of children by a cathode ray nipple. TV is the only wet nurse that would create a cripple. Television, the drug of the nation, breeding ignorance, feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation.
Il est énorme ce morceau. Je crois que j'ai vraiment bien fait de le passer. Et oui, ben, ils ont lancé donc la TNT depuis avant-hier, l'arrivée de la télévision numérique. On nous en a tellement bassiné que je parie que 70% du territoire français doit croire qu'il s'agit du plus gros poisson d'avril qu'on ait jamais fait. Ben, faut dire qu'ils sont pas encore couverts, ceux qui sont pas dans la zone de réception, sans compter les 50%, selon un sondage qui a été fait justement sur Toulouse, qui n'ont pas envie d'investir dans un adaptateur. Bah oui, parce que décodeur, du coup, ça faisait dire c'est payant en fait. Hein. Non, ça l'est pas de suite. Ce que la TNT amène, c'est une qualité numérique. Alors la qualité numérique, ça veut dire une qualité de réception. Ça veut pas dire que l'image est plus fine ou que le son est meilleur. Le son est mieux, l'image n'est pas plus fine. Et en fait, ben ça veut dire tout simplement soit tu captes, soit t'as rien. Pas de demi-mesure, ou alors t'as une réception. Enfin voilà quoi, point barre. Techniquement, ces nouvelles chaînes sont multiplexées et compressées dans un seul canal pour passer 5 ou 6 télévisions. Ce qui signifie qu'à fréquence équivalente, au lieu de diffuser 5 programmes, on peut en passer 30. Et comme on est dans un spectre hertzien qui est littéralement saturé, et ben c'est vraiment une bulle d'oxygène quoi, vous allez me dire. Oui, mais c'est aussi une manière de contrôler les nouveaux entrants. La technologie numérique implique de mutualiser un émetteur qui appartient à une compagnie, que ça soit TDF ou Powercast, ben la filiale de NRJ. Alors comment NRJ s'est fait un réseau? Ben justement en rachetant les émetteurs des petites radios associatives. Ah bah oui, donc ça permet de réduire singulièrement l'arrivée de chaînes locales et associatives. Effectivement, s'il existe des radios telles que Radio FMR, c'est justement parce que émettre en FM, c'est peu onéreux, c'est peu coûteux, c'est plutôt facile et il n'y a qu'une personne par fréquence. Bon, si on obligeait les nouvelles radios à passer tout le monde tout de suite en diffusion numérique, ça veut dire qu'on s'adresse plus à des gens qui ont les moyens de s'acheter donc un d'adaptateur et en plus et ben les radios en question sont obligées de payer une somme pour émettre qui va être largement plus cher que ce qui est prévu normalement. Je sais de quoi je parle, j'ai été salarié ici là hein, dans cette radio entente pour les problèmes de diffusion. C'est techniquement très difficile, mais cela permet à Radio FMR d'exister avec un budget ridicule de bout de ficelle, avec un pied micro qui se barre. Enfin bon, vous connaissez si vous nous écoutez. non mais on va le dire quoi. Et ceci sans être subventionné par une mairie, un conseil général, un parti politique ou une université. Je n'ai cité aucune radio là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nos seules limites d'expression sont fixées par le CSA, qui d'un autre côté est garante de la liberté d'expression de Radio FMR. Et oui, c'est un peu ironique quand on se souvient que FMR, c'était quoi le jingle du sport ? Tu le fais tellement bien. FMR, la radio qui effraie le maire. Eh oui, hein, coucou Monsieur Baudis. Et ouais, donc ces nouvelles télés sont soit publiques, soit commerciales, mais pour l'instant il n'y a aucune locale. Normalement à terme devrait en arriver 3 locales par région. Et si elle est locale, eh ben elle sera très probablement subventionnée par une collectivité publique et par un quotidien régional, c'est-à-dire en sous-main par deux partis politiques qui font attention à tout ce qui sera dire. Faut dire qu'à la différence d'une radio, faire une heure de programme télé, c'est particulièrement lourd. La preuve, faire une émission de radio, pour nous, ça nous coûte quasiment rien. Et faire une heure de télévision, ben, enfin si, ça nous prend quoi ? Préparer une heure de radio, ça nous prend quoi ? 5-6 heures hein, de préparation à peu près.
Oui,
voilà. Ouais. Faire une heure de télévision, ben, ça prend une trentaine d'heures. Hein, et alors quand on est tout seul, on arrive à 40 heures. Je sais, je l'ai fait. Bon, allez, si au moins il y a des concurrents à TF1, ça les a bien fait chier. TF1, ils ont tout fait pour arrêter la TNT, pour la saboter. Eh ben, parce que finalement, les nouvelles chaînes de la TNT doivent pas être si mauvaises que ça. Enfin bon, d'abord, ils ont fait supprimer le must carry. Et là-dessus, du sport a une gueulante affaire. Le must carry, c'est une notion qui a été introduite aux États-Unis, comme quoi les réseaux câblés doivent reprendre le signal hertzien des chaînes pour éviter justement qu'il y ait un blocus qui se fasse, pour faciliter la vie des consommateurs. Ensuite, ils nous ont bassiné avec le MP4, qui n'est pas encore définitivement exactement défini, pour faire de la télé HD que, ben, si TF1 dit que c'est une cyber révolution, ils pouvaient quand même le faire depuis un bail sur le satellite. Eh ben non, que dalle. Bref, pour finir, au lieu d'avoir 30 chaînes gratuites d'entrée, on en a que 14, et au mieux, donc en septembre, octobre, on en aurait 18. Bref, voilà, le plaisir. Du sport, toi, t'as eu droit justement au plaisir de chercher les nouvelles chaînes.
Eh oui, parce que bon, bah, quand
du
on.
Du sport est abonné, pour ceux qui n'ont pas la couleur, du sport est abonné à Numéricable, qui est l'opérateur câble sur Toulouse.
Voilà, donc, on pouvait croire que ça se passerait bien, surtout quand tu. À longueur d'articles, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles. Et beaucoup de sujets télé à ce sujet, et avec en plus le courrier personnel, bien entendu, hein, de Monsieur Numéricable, eh bien, on te dit, oui, quand vous avez le numérique, y a pas de problème, toutes les chaînes sont rajoutées d'office sans problème et tout, je suis encore en train de chercher W9, je suis encore en train de chercher NT, je suis encore en train de chercher Direct 8, mais par contre, pour les chaînes.
Alors, Direct 8 refuse.
De France Télévisions, y a pas de problème, c'est déjà en place, ouais. Ça roule du feu de Dieu.
Alors, j'ai des indications, Direct 8 refuse d'être pris sur n'importe quel bouquet s'il n'est pas la position numéro 8, ce qui est exclu donc de TPS, parce que TPS, ils savent plus où foutre TPS Star, du coup. Et voilà, quoi, ils sont pas emmerdés. D'un autre côté, W9, eux, ils sont repris sur Canal Satellite. Mais Canal Satellite, on fait, oh, mais c'est la petite chaîne de M6. Dis donc, vous êtes pas censés être nos concurrents. Ouais, mais on aimerait que notre chaîne, quand même, soit rentable et tout. D'accord, on va vous mettre en position 234, là, entre la chaîne cuisine marocaine et Tchatch TV, là. Et hop, zou. Bref, vous imaginez quand même le gros foutoir que c'est. Ouais, en clair, les nouvelles chaînes, bonne chance pour les capter. Direct 8, moi je l'ai sur la Freebox. La seule chaîne que je n'ai pas, c'est TF1 et M6 qui refusent d'être prises, et TMC. Alors là, j'ai pas compris pourquoi. Mais bref, ça a été quand même le gros sketch.
Oui, c'est le gros bordel pour l'instant. Ouais.
Pour l'instant, c'est clair que normalement vous êtes censé les recevoir. Mais alors après, cherchez-les. Après, un adaptateur, pour l'instant, ça vaut 100€. Et il y a déjà, ça existe depuis 2-3 ans hein, en Angleterre et en Allemagne. Il y a déjà des télés qui reçoivent directement en numérique. À noter qu'en Allemagne, la région autour de Berlin, ils sont passés direct au numérique. C'est-à-dire, il n'y a plus de signal hertzien. Analogique, et toutes les télés vendues sont directement en numérique. Oui, Duce. Tu voulais dire un truc? Bon, d'accord. Non, okay. Donc voilà, donc j'ai fait le tour des soirées de lancement des nouvelles télévisions. Alors France 5 et Arte, c'est business as usual, puisqu'elle est diffusée déjà en canal séparé sur le câble et le satellite.
Sur le câble et le satellite, c'est déjà diffusé. De toute façon, à noter quand même que France 5 va faire des efforts. Et du fait de ces nouveaux programmes, c'est-à-dire surtout la soirée, hein, parce qu'il faut savoir qu'avant, eh bien, c'était France 5 la journée.
C'était des rediffs. Hein.
Et Arte, la soirée, là, c'est France 5 sur numérique qui faisait des rediffs essentiellement. Là, ça va être des soirées, plusieurs soirées à thème original, hein, dont ça commence ce soir d'ailleurs avec le fiston PPDA.
Arnaud.
Arnaud, PPDA, ouais.
APDA.
APDA qui nous fait une série sur la criminalistique qui peut être intéressante donc. Hein.
C'est quel jour?
C'est ce soir. Ce soir sur France 5. Oh, donc, voilà, il y a également d'autres émissions originales qui promettent d'être développées dans les mois qui viennent, hein, jusqu'en mai, hein, je vous tiendrai au courant. Voilà, en ce qui concerne
ils avaient lancé un très bon concept qui sera repris le samedi désormais exclusivement, ce qui est donc Cult, présenté par Ray Cox.
Oui, Cult, oui.
Où en fait, tout le monde peut intervenir à condition d'avoir une webcam avec des interviews, des invités assez allumés, très bien foutu. Et le soir à 20h, on avait tous les jours un documentaire sur un thème par semaine, avec des points de vue différents, par exemple sur la Shoah, sur l'assassinat de Kennedy. C'était très 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 bien fait de ce côté-là. Il y avait rien à dire. Arte, eux, en journée, eux, ils lancent un magazine féminin à 14h, j'ai cru voir, et ils auront des petites curiosités au fur et à mesure. Enfin, eux, ils sont mis déjà depuis un bail. Et tant mieux. Direct 8. Alors là, c'est la chaîne de Bolloré.
C'est celle qui me fout le plus de boule de pas pouvoir la voir parce que bon, une chaîne entièrement en direct, ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant, mais non. En fait, oui. Pas du tout, parce que Bolloré et donc son mentor, j'ai oublié le nom là du mec de ex-RTL.
Philippe Labro.
Philippe Labro. Donc voilà, ils ont présenté la soirée ensemble et de ce que j'en ai retenu, les titres des émissions sont nuls. Le ton est résolument pédant et Bolloré parade dans un cadre. Alors d'abord, il met en avant le fait qu'on va parler d'écologie sur sa chaîne, on va parler aussi de Dieu et des religions. Je dirais que c'est vrai qu'on peut parler de religion quand le dimanche il y aura Alain Minc, qui est quand même.
Ouais, mais je pense pas qu'ils évoqueront le passé trouble pendant la Deuxième Guerre mondiale de la famille Bolloré.
Voilà. Oui, exactement. Bref. Donc, alors, à l'image, vous avez l'impression que c'est un décideur qui a découvert DecoCast. Alors, DecoCast, c'est un logiciel de titrage en direct dans lequel on peut incruster l'heure, on peut mettre des messages SMS, on peut mettre les scores de foot, etc. Vous le voyez régulièrement, d'ailleurs, dans tous les matchs de foot de TF1, ou vous le voyez quotidiennement dans LCI, iTélé, Al Jazeera. C'est-à-dire, toutes les chaînes qui font du titrage intensif utilisent ce soft. Et là, il est super mal utilisé. T'as un bandeau vert horizontal, tu as un direct 8. En haut, à droite, tu as l'heure. En haut à gauche, bref, c'est encombré.
Oui, en faisant du logo d'ailleurs.
Et vas-y, que je te mets des. Oui, c'est deux. C'est une double.
Deux globes. Deux globes terrestres. Ouais. Font 8.
Voilà, donc c'est. Pourquoi pas. Et vas-y, que je te mets des pavés partout. Et en plus, le plus amusant, c'est que la soirée de réalisation était réalisée par Gérard Pulicino. C'était mal organisé. C'était un bazar immonde. Le caméra, le son, c'était à volo. On sentait que les caméramans étaient stagiaires et que la prise de son, ça n'a jamais été étudié pour. On dirait du TL. Du TLT, donc pour ceux qui n'ont pas la couleur, qui nous écoutent sur le net, TLT c'est la chaîne locale. Ils sont dans au rez-de-chaussée en fait de la nouvelle bibliothèque publique
de notre radiateur géant.
Voilà. Et en fait ils sont sur une baie vitrée, ce qui fait que la lumière extérieure rentre. Donc en connaissant quand même l'ensoleillement de Toulouse, on imagine que à certaines heures, et ben le plateau est à moitié inondé de lumière. Donc il y a des invités qui sont littéralement cramés la gueule, journalistes qui sont dans l'ombre. C'est super. Je me suis dit, Bolloré, quand même, il va pas faire la même connerie. Il est au courant. Eh ben non, même pas. Je croyais que c'était côté façade nord. Apparemment, c'est au sud. Donc, à mon avis, de temps à autre, on va voir passer le soleil dans le cadre. Ça va être super. W9, alias M6 à l'envers. Ben, c'est des clips. Et un logo en 3D en forme de baladeur MP3. Ben oui, c'est pas un hasard parce que si vous allez sur le site W9, vous tombez sur un site de magasin de vente en ligne. Que quand t'as Linux ou Macintosh, eh ben on te dit va te faire foutre, t'as qu'à acheter un PC, hein, pour avoir le Windows Media à la con. le premier soir, un nombre impressionnant de plantages à la diff, c'est plutôt inquiétant pour une chaîne qui a une quinzaine de télévisions en France à son actif. Et pour les jeunes, pour la première soirée, Saturday Night Fever.
Que du bonheur.
Que du bonheur. Bon, TMC, ça je le capte pas, j'ai pas vu, mais je doute qu'ils avaient le cœur à la fête, hein, je sais pas, une intuition, enfin bon, on va pas revenir. NT1, donc des séries, bah oui, c'est un mix entre AB1 et RTL9.
Oui, oui, avec la diffusion d'une série inédite, hein, ça commence ce soir à 19h, une série néo-zélandaise qui peut être intéressante, qui s'appelle Street Legal.
Ah yeah.
Ah. À 19h ce soir, donc.
Ah. Tu sais ce qu'ils ont passé par première soirée ?
Non, non.
Une histoire tragique où un projet trop bien ficelé manque de tourner au désastre, transformé en réussite in extremis. Donc c'était Apollo 13, malgré les sabotages des soviétiques, pardon, de TF1, non, de la faute à pas de chance. Bon, en clair, bon, c'était rigolo. NRJ 12, alors là, attention, parce que la chaîne de Baudecroux, là, de la radio SOP, eh ben j'en ai des choses à dire. Les clips, c'est un robinet à clips, mais stretché. Ça veut dire qu'ils émettent en 16/9, mais comme ils ont pas des images en 16/9, on prend, on met des bandeaux noir en haut en bas et on étire l'image. Résultat des courses, quand vous le regardez sur une vraie télé 16/9 ou quand vous zoomez, quand moi j'ai une télé classique, quand on zoome à l'adaptateur, on voit que ça fait un résultat dégueulasse. Je sais pas, c'est un peu comme si vous prenez une photo dans la dépêche et que vous l'agrandissez au format A0, vous avez des grosses trames, vous savez, ça donne des trucs hyper dégueulasses. Et alors le plus drôle, c'est que il nous annonce un son en Dolby sur onde 5.1. Bah en fait, c'est un gros bricolage avec un spatialiseur, ce qu'on appelle, parce que on sait de source sûre que NRJ12 n'a pas reçu son matos de diff qu'il reçoit et qu'il installe qu'en cours de cette semaine. Et en plus, alors le pire, c'est les vidéoclips qui sont des versions censurées dans les paroles.
Ouais, ouais.
Parce que dans le clip de Gwen Stefani, You Stupid Girl a été, You Stupid Damn, pardon, a été coupé. C'est en fait, c'est la même diff que sur les chaînes clippées anglaises, mais pas sur les chaînes clippées françaises. Alors à mon avis, je sais pas comment ils ont eu leur bande, ils ont super mal négocié. Bon, la chaîne parlementaire, alors là, la soirée de démarrage a été super. Une revue du Lido dans les bancs du Sénat, au milieu des parlementaires faisant la queue leu-leu, habillés en vareuse, avec le tout sous DJ Ayagon. Non, parce que comme d'habitude, c'était chiant. Et France 4... Alors France 4, la bonne...
On a rêvé pendant quelques secondes.
France 4, la bonne surprise avec des concerts alléchants. Vraiment non, il y avait des trucs pas mal. Ils ont passé hier par exemple le concert hommage à Claude Nougaro, Place du Cap. Et vraiment, c'est ouais, vrai que ouais, le concert était pas mal.
Ce matin à 8h du matin sur France 4, il y avait un concert de Led Zeppelin à Copenhague en 69.
Ah bah c'est bien pour se réveiller.
Et The Doors hier soir, pour se suicider, c'était super.
Ouais, ouais, mais il
non non, mais vraiment des très 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 bons trucs. Mais enfin, on voit franchement que c'est plus enfin Direct 8 à mon avis. Regardez vite parce qu'il y a des concepts qui vont très vite disparaître, comme Boîte de Nuit. Boîte de Nuit où en fait ils filment en direct une discothèque de banlieue avec trois caméras sans fondu, sans effet ni quoi que ce soit. Bon, c'est, le résultat est lamentable, surtout quand t'as que 20 personnes sur la piste. C'était loupé. Je sais pas, ils ont eu une idée à part. Le service public, eux, ils ont d'excellentes choses à nous passer. Et après, ben, NRJ12 et W9, je sais pas, c'est robinet à clip. À mon avis, c'est que ça doit coûter pas cher du tout le clip. Hein. Comment ça, je sais de quoi je parle. Bon, d'accord, ok. Du sport, il est 13h05, je suis désolé.
Bah, ouais, 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 donc je vais faire très très vite hein, avec le premier sujet, ben, c'est la Trash TV. La Trash TV, ouais, avec que des nouvelles qui nous proviennent, qui me proviennent du National Enquirer, l'enquêteur national. C'est vraiment le journal, un des journaux les plus trash qui existent aux États-Unis en ce qui concerne la vie privée des stars.
Et ouais, ça tu aimes, hein.
Vraiment, oui, oui, ça, y a pas de problème. Et ça révèle vraiment tous les petits trucs, tous les, alors, dans le National Enquirer. D'ailleurs, si, vous pouvez écrire National Enquirer.
Je croyais qu'on faisait une rubrique télé, là.
Si, si vous, vous avez vu, par exemple, Johnny Depp en train de cultiver du pavot dans sa résidence,
du sport.
Vous pouvez le raconter à National Enquirer.
Je tiens une maison sérieuse, là.
D'accord, hein, d'accord. Alors. Dans cet éminent journal qui est un hebdo, on a la version anglaise quand même, hein, c'est pas la version américaine. Eh bien, quelques petites nouvelles des stars télé avec Eddie Falco pour inaugurer Eddie Falco. C'est Madame Soprano, Carmela Soprano, dans la série qui jouait, qui a également joué dans Oz, dans Law and Order. Et bien on apprend qu'elle a adopté un petit garçon il y a pas si longtemps que ça, hein, et on apprend également que pendant le tournage de la série de la sixième saison, et c'est vraiment le bordel hein, en ce moment, la diffusion est un petit peu retardée, hein, de la sixième et dernière saison, parce que c'est le gros bordel, ils n'arrivent pas à s'entendre, je sais pas, quand ça marche pas très très bien. Et elle, pendant ce temps-là, ben, elle subissait un traitement contre le cancer du sein, et ça a marché. Chapeau à Eddie Falco, donc. Charlie Sheen, lui, ben, c'est un habitué hein, du National Enquirer, je vous préviens tout de suite. C'est ce qu'on appelle le client, le bon client. Là, bon, ben, il s'agit d'une affaire de mésentente familiale. Hein. Charlie Sheen, ben, il s'est installé à l'hôtel, il a quitté sa maison carrément. À l'hôtel, bon, quand même le bon hôtel, Beverly Hills quand même, hein, faut quand même pas déconner. Alors que ben, sa femme aussi, Denise Richards, ben, elle a quitté le domicile conjugal de Malibu. Avec leur fille d'un an, Sam. Et il faut dire qu'elle est également enceinte en ce moment. Et là, elle doit être à 7-8 mois. Hein. C'est pour bientôt. C'est vraiment pour bientôt.
Oh,
hein. Et pourquoi elle s'est barrée? Pourquoi lui aussi s'est barré? Bah, pareil que Charlie Sheen, bon, dans le temps, il faisait les 400 coups, il sortait, il se bourrait la gueule avec ses potes, il faisait abuser de substances illicites. Là, il s'est rangé un petit peu. Là, maintenant qu'il est quand même devenu un petit peu acteur à succès d'une sitcom à succès, tout, hein, Half Man, Mon Oncle Charlie. Ça marche très très bien hein, aux États-Unis.
Hein,
ils en sont à la troisième saison, ça continue à rouler. Hein, bonne audience. Bah, Charlie Sheen, son problème, hein, c'est qu'il aime encore bien jouer, bah, gamble, hein, c'est-à-dire parier. Alors dans le temps,
je croyais que c'était à la Game Boy, c'était pas dur. Hein.
Non, dans le temps, il sortait comme ça, il avait parié sur tout et n'importe quoi avec les bookies et tout ça. Non, là maintenant, bah, avec l'avènement d'Internet, il fait ça, tout ça chez lui, à la maison, et c'est ce que lui reproche sa femme, hein, c'est de délaisser leur petit enfant. Il rentre à la maison après le travail et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa pièce, il va se mettre à son PC et il joue à quoi? Bah, il joue de l'argent hein, parce que là-bas il faut savoir qu'on peut jouer de l'argent via le PC sur les courses de chiens, les courses de chevaux, tout ça, enfin bon, sur les résultats sportifs. Bref, ça roule pour Charlie pour le moment. Alors entre autres potins, on apprend aussi que Ellen DeGeneres sort avec Portia de Rossi depuis pas mal de temps quand même. Hein, on apprend aussi que Demi Moore est à nouveau enceinte.
Ouais.
Ashton Kutcher, hein, qui a quand même, je crois, 17 ans de moins qu'elle, hein, il semble. Quand même, Ashton Kutcher qui joue le rôle de Kelso dans That 70s Show.
Oui.
Voilà, et qui a également joué le rôle principal dans L'Effet Papillon. On apprend également la confession bouleversante de Daniel Baldwin, 44 ans, frère de Alec, William et Stephen Baldwin. I am a drug addict, a-t-il déclaré à la télé, carrément. Et c'est vrai que quand on voit les photos de lui, ben je dis putain, ouais c'est vrai, il a que 44 ans ce mec. Mariska Hargitay qui elle joue dans Law and Order Special Unit qui est diffusée tous les samedis soirs sur TF1, TF1 ça s'appelle comme ça, ouais. Mariska Hargitay donc, ben elle s'est fait refiler une carte des bénévoles de la police new-yorkaise pour ne pas se prendre de contravention. Aïe, 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 elle lui a été offerte gracieusement par les hommes en bleu hein, de la police de New York parce que, eh bien, dans la série, elle donne une image intéressante de la police new-yorkaise.
Et l'UNESCO, voilà. Elle a eu pareil chez nous ?
Non, mais enfin bon, ça se passe autrement chez nous.
Non, non, la police à New York
chez
quand
nous,
même
ça
a...
Se passe autrement.
La police à New York quand même a eu une image assez déplorable pendant 10 ans. Hein.
Ouais. Encore un potin concernant Anthony LaPaglia, aussi un acteur de télé qui marche bien. Aux États-Unis, la dernière série dans laquelle il est le principal protagoniste est Without a Trace, qui chez nous s'appelle FBI Porté Disparu.
Ah
hein,
oui.
Et oui, qui en est déjà à sa troisième saison aux États-Unis. Quand chez nous c'est le bordel, on sait pas trop. De toute façon, ils s'en foutent. Anthony LaPaglia, il fout le bordel dans sa famille. Pourquoi? Parce que depuis qu'il gagne beaucoup de pognon avec cette série, il faut dire que la première saison. La saison qu'on a pu voir en France, eh bien, il touchait 80 000 $ par épisode. La saison 2, il a été augmenté, il touchait 200 000 $ par épisode. Hein, et la saison 3, on touche combien par épisode? On touche 1 000 000 $ par épisode. Ouais, c'est super. Et sa femme, elle commence à s'inquiéter parce qu'elle a entendu des bruits comme quoi il voulait s'acheter une équipe de football australien. il faut dire qu'ils sont australiens d'origine, tous les deux, hein, sa femme et lui. Anthony LaPaglia, et donc c'est pour ça que bon bah en prévision des jours futurs culture. Enfin, c'est tout et n'importe quoi, pratiquement. Sinon, dans ce numéro, il y avait un spécial Desperate Housewife, 20 pages de plus dans le National Enquirer. Desperate Housewife, c'est une série qu'on n'a pas encore vue en France, qui a déjà été achetée par Canal+, me semble-t-il, et qui devrait être diffusée, ça va être la prochaine série bien rentre dedans, l'histoire de 4 nanas, enfin 4 héroïnes principales, plus 2 autres nanas qui sont secondaires, mais enfin bon... C'est surtout l'histoire de ces 4 nanas qui sont des nanas ayant passé le cap de la quarantaine vécu les différentes histoires. C'est un petit peu du Sex and the City, mais un peu plus rentre dedans, on va dire, hein, carrément au niveau du cul. Avec surtout des quelques petits canons. Il y a Eva Longoria, ex Miss Corpus Christi. Corpus Christi, c'est une ville au Texas, hein, ouais. Je te signale, d'accord ? Qui est sorti avec tout et n'importe quoi, et même Tony Parker, le basketteur, hein, dernièrement. Elle a joué dans, elle a commencé sa carrière télé en jouant dans The Young and the Restless, hein, ça c'est pas de la référence.
Oui, c'est Les Feux de l'Amour.
Les Feux de l'Amour, exactement. Elle a été virée des Feux de l'Amour parce qu'elle foutait le bordel. Elle a joué dans Dragnet, hein, une excellente série avec, comment elle s'appelle, qui jouait le rôle de Bundy, Dragnet, hein, la nouvelle mouture, hein, donc, qui, série qui a été arrêtée. Il y a également Terry Hatcher, qu'on ne présente plus. Elle a fait Lois dans Lois et Clark. Elle a fait ses premières apparitions télé dans Love Boat. Love Boat, c'est la croisière s'amuse. Et Terry Hatcher, c'est pas n'importe qui. Son père est un physicien atomiste et sa mère, une ingénieure en informatique.
Cherchez l'erreur
quand même. Et ça, c'est des nanas. Donc, Longoria, c'est la plus jeune d'ailleurs dans Desperate Housewives. Elle a 29 balais. Terry Hatcher, elle est près de la quarantaine quand même. Il y a Brenda Strong qui est la plus vieille. Elle qui a fait un chapelet de séries, hein, quand même, Saint Elsewhere, elle a fait MacGyver, elle a fait Cheers, elle a fait Seinfeld également, elle jouait le rôle d'une nana qui montrait sa poitrine, 44 ans. Il y a Nicolette Sheridan, elle, alors là, une vie complètement rock'n'roll depuis le départ, parce que son père naturel l'a abandonné au bout de quelques mois quand sa nana Sally Adams est venue retourner en Angleterre, d'où elle était originaire. Le nouvel amant et le nouvel amour de Sally Adams s'appelle Telly Savalas, qui a donc été son père naturel, son beau-père, on va dire, hein, d'accord, mais qui l'a élevé. Hein. Nicolette Sheridan, qui a connu la gloire dans la série Knots Landing, et qui maintenant a 41 ans, est vachement plus connue d'ailleurs, National Enquirer, parce qu'elle s'est tapée une flopée de mecs, mais qu'elle a commencé vachement jeune. En plus. Il y a Felicity Huffman également, qu'on a vu dans Sports Night, qu'on a vu dans certains épisodes de Frasier, hein, 42 balais, qui joue dans Desperate Housewives, et qui est la femme de un mec qu'on connaît bien, que moi j'aime bien comme acteur, c'est William H. Macy, qui a joué dans Fargo, qui a joué Dr. Morgenstern dans ER dans les premières saisons.
Oui, Mystery Men, hein,
Xavier. Oui, Mystery Men, oui, exactement. Ouais.
Très fort d'ailleurs.
Qui joue aussi dans, je me rappelle, Boogie Nights, ouais, c'est ça, voilà. Et il y a également Marcia Cross, et celle-là, vous devez la connaître. C'est une rookie qui est dans Ally McBeal, c'est la rookie, je crois, qui est à l'entrée, celle qui fait le dispatching, me semble-t-il. Et elle a également interprété le rôle du Dr. Kimball Show dans Melrose Place. Tout ça, donc, dans Desperate Housewives. Et alors, t'as vu les photos quand même, hein, parce que bon, bah, eux, ils y vont à fond, ils te cherchent les photos des actrices dans les rôles un petit peu dénudés. Et ils trouvent, hein, même pour les nains qui sont vieilles et tout, pas, ils trouvent. Hein. C'est quand même des enfoirés pour ça. Voilà, donc, en ce qui concerne les petites nouvelles un petit peu trash. Sinon, de la nouveauté série avec la 8e saison inédite de Stargate qui démarre vendredi prochain, avec des apparitions au courant de cette 8e saison de Isaac Hayes, le scientologue, et de George Zunza, le mec qui ressemble à Paul Sorvino. Voilà, il y a également, alors je suis tombé par hasard en plus, vraiment, parce que j'y vais jamais sur cette chaîne, sur Equidia, la chaîne dévouée au cheval. Tous les lundis soirs, une excellente série, c'est Briscoe County Junior, de 20h, alors c'est tous les lundis soirs, de 20h45 à 23h, je crois que ça fait 3-4 épisodes à la suite, hein, l'excellente série de Carlton Cuse avec Bruce Campbell dans le rôle de Briscoe County, il y a Billy Drago qui joue le rôle du méchant, c'est excellent, et Kelly Rutherford, il y a Robert Lee Hermey dans cette série qui mélange un petit peu tous les genres, c'est une série western de départ, mais enfin bon, on peut partir dans le fantastique. Dans le comics, dans le dessin animé, enfin bon, ça part dans toutes les directions, c'est vraiment très très bon, avec surtout l'acteur principal Bruce Campbell, excellent. Il y a mon oncle Charlie, hein, de toute façon je vous en avais parlé juste avant, et bien le premier épisode de mardi prochain sur Canal Jimmy à 20h45, avec justement une nana dont on vient de parler, Terry Hatcher, qui fait une apparition, donc il les tape toutes, quoi, de toute façon. À noter quand même la rediffusion sur TMC, hein, qui a l'habitude de diffuser de la série policière de qualité, on va appeler ça comme ça. Et là, ce n'est pas de la série policière de qualité britannique, mais française, avec la rediffusion des vieux Arsène Lupin.
Oui.
Avec Georges Descrières.
Avec Georges Descrières. Et ça passe juste après Hercule Poirot à partir de 22h40, un mercredi prochain sur TMC. Georges Descrières.
Les enfoirés.
Yvon Bouchard qui joue le rôle de Grognard. Alors, il faut dire que dans les bouquins, le Grognard, c'est le compagnon, l'acolyte hein, de Arsène Lupin. Il faut dire que dans les livres, Arsène Lupin a connu plusieurs acolytes, mais là qui sont ramenés à un seul truc. Hein. Comme là, il y a 13 épisodes qui ont été tournés en 71, plus 13 autres en 73-74, hein, ça fait 26 au total. Et ben, c'est à peu près le nombre de bouquins et de nouvelles hein, qu'a écrit
Leblanc.
Maurice Leblanc. À propos d'Arsène Lupin. Et on notera la prestation de Roger Carrel en tant que commissaire Garchard, hein, le mec qui cherche toujours à niquer la tête de Georges Descrières, Marthe Keller dans le rôle de Natacha, Henri Villengeux dans le rôle de Herlock Sholmès. Et ouais, il a combattu Herlock Sholmès. Il y a un bouquin qui s'appelle carrément Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Bah oui, de Maurice Leblanc. Si c'est vrai. Donc c'est mercredi prochain à partir de 22h40 après le Hercule Poirot. Ouais.
Ouais, juste pour dire parce qu'il y en a qui vont nous quitter parce qu'il est 13h19. On n'aura même pas le temps de faire le résumé. Je crois qu'il y a juste eu un plantage, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, mais bon, on a été soft aujourd'hui.
On a été soft. Ouais. Donc on dit au revoir à ceux qui nous écoutaient sur internet parce que l'enregistrement mini disque se termine et on va continuer. Derrière, mais voilà, désolé.
C'est con parce que vous avez programmé juste les films du jeudi prochain hein, avec Bruce Campbell encore, on en reparle. Et là, c'est un monument, c'est un film excellent, L'Armée des Ténèbres de Sam Raimi.
Ah ouais.
Qui s'appelle qu'on avait appelé Evil 3, enfin c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Quoique dans le film de L'Armée des Ténèbres, on retrouve des références carrément explicites au Evil Dead précédent, hein, avec la scène de la main coupée, enfin la hache et tout. Enfin bon, c'est carrément à...